Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
C'est toujours émouvant d'assister à la naissance d'un néologisme, d'un nouveau terme dans le débat public. Et vous êtes précisément l'auteur d'un néologisme, Jérôme Fourquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, lauréat du prix 2019 du livre politique avec un très bon livre, L'archipel français, publié aux éditions du Seuil. Alors archipel, archipélisation, le terme est en train de s'imposer dans le débat public. Je l'ai vu ce matin dans le Figaro, un peu comme France périphérique s'est imposée, ou bien jadis le storytelling. Archipélisation, cela signifie ou cela signifierait que nous vivons dans une société de plus en plus éclatée, une mosaïque. Et justement, j'ai l'impression que tout ceci s'effondre du fait de Notre-Dame, puisque Notre-Dame, c'est la preuve quand même, Jérôme Fourquet, qu'il y a un centre en France, un centre de la France, et que finalement l'émotion suscitée par l'incendie de la cathédrale et de nature à mettre un terme à cette archipélisation.
Alors, dans l'ouvrage que vous citez, je commence par expliquer que ce qui constituait un des piliers fondateurs ou structurants de la société française sur la longue durée était cette matrice qu'on appelait la matrice catholique, hein, en positif pour les catholiques et puis en négatif pour le camp républicain et laïque qui s'est structuré en face. Force est de constater que cette matrice catholique, elle s'est totalement ou très fortement disloqué au cours des dernières décennies. Alors nous ne sommes pas les premiers, bien évidemment, à travailler sur le phénomène de déchristianisation, mais il a atteint aujourd'hui un stade avancé. Si on regarde de manière très clinique et très froide les chiffres, nous avions en 1960, à la veille de Vatican II, selon les enquêtes de l'IFOP, un tiers des Français qui déclaraient aller à la messe tous les dimanches. Nous sommes tombés à 5 ou 6% ces dernières années. Si on regarde également d'autres données qui, elles, ne sont pas sondagières, le nombre de prêtres diocésains qui sont en exercice ou en activité en France, il était à peu près encore de 20 000 à la fin des années 90, on est tombé à 11 000 ces dernières années. Donc ça a été divisé par deux en l'espace de deux décennies. Donc on voit bien que ce phénomène de déchristianisation est extrêmement puissant et donc il a deux conséquences. La première, c'est que les catholiques n'ont pas disparu, ne sont pas retournés dans les catacombes. Il y a encore des catholiques, et on l'a vu très récemment en France, mais pour reprendre mon image, ils ne sont plus qu'une des îles de l'archipel français. Et la deuxième conséquence de ce mouvement, c'est que cette matrice catholique s'est disloquée. Alors, un peu comme un édifice qui s'effondre, quand il y a dislocation, il reste des pans entiers. Et donc, on le voit, les catholiques disposent encore d'un legs et d'un héritage assez important. Il y a une presse, il y a des intellectuels, on a des organisations comme les mouvements scouts, on a le réseau des écoles libres. Donc, tout ça pèse. Et puis, bien évidemment, on a également un patrimoine spirituel et historique qui est très important. On pense au Mont-Saint-Michel, au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, qui sont investis pas uniquement aujourd'hui par des chrétiens, et puis bien évidemment aussi Notre-Dame, qui a suscité un très fort sentiment de compassion quand ces images terribles sont arrivées sur nos écrans. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper dans l'analyse et pas être dans un effet de trompe-l'œil.
Mais alors, effet de trompe-l'œil, l'émotion, elle était là. Est-ce que ça ne tend pas à relativiser votre constat? Alors, votre constat, il est très clinique, Jérôme Fourquet. Vous fondez, on va en reparler, notamment sur la manière dont les parents nomment leurs enfants et l'évolution des prénoms. Mais au-delà de ça, est-ce que vous ne sentez pas quand même une sorte de vague d'émotion avec quasiment des attitudes mystiques? J'ai cité par exemple cette couverture de l'Express du jour avec une photo de Notre-Dame en feu et le titre « L'âme de la France ». Alors est-ce que tout cela, c'est le portrait d'un pays déchristianisé?
Je pense qu'encore une fois, il reste un substrat, mais que cette influence catholique, cette influence chrétienne est en très très forte régression. La France a connu aussi une émotion un peu du même type. Il y a 3 ans maintenant, au moment de l'assassinat du prêtre Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et donc là aussi, ça avait été un choc immense, parce qu'il y a des circonstances dramatiques. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas confondre une émotion momentanée avec un phénomène de plus longue durée. Si l'on regarde, par exemple, le taux de jeunes enfants qui sont baptisés ou d'autres indicateurs de ce type, on voit bien que l'influence chrétienne et catholique a considérablement régressé dans notre pays et qu'il reste bien évidemment des choses un peu à l'état de traces, Notre-Dame étant bien évidemment, par ailleurs, à la fois un lieu très chargé de sens pour les catholiques et pour les chrétiens, mais c'est également un bâtiment qui fait partie, un monument qui fait partie de l'histoire de France. Et c'est aussi ça qui a suscité ce réflexe d'union nationale. Si on regarde sur un site de vente en ligne comme Amazon, on voit que dans les jours qui ont suivi, toutes les éditions de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo sont remontées à la tête du classement. Et puis on a, pour des gens qui sont pas forcément catholiques, des images de Notre-Dame de Paris, ceux qui sont intimement liés à notre histoire, la messe lors de la libération de Paris, certain nombre d'obsèques présidentielles. Donc c'est tout ça aussi qui est remonté à la surface à l'occasion, encore une fois, d'images très très spectaculaires. Donc l'idée n'est pas de nier l'existence de racines chrétiennes qui continuent de perdurer, mais d'en relativiser aujourd'hui l'importance et le caractère structurant dans la société de 2019.
Allez, je continue un peu à vous embêter, Jérôme Fourquet, au sujet donc de cette hypothèse de déchristianisation de la France. Est-ce que finalement l'émotion suscitée par cet incendie, par ce qui relève d'une atteinte au patrimoine, il n'y a heureusement pas eu de perte humaine, donc des questions qui relèvent d'un bâtiment, est-ce que finalement ça n'est pas en relief une sorte de défaite des bâtiments républicains, je ne sais pas moi, du Panthéon par exemple? Est-ce que ça signifie que le cœur de la France, son cœur mystique, est toujours plutôt dans une cathédrale que dans je ne sais quel bâtiment de la République?
Alors ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est que cette matrice catholique, elle a servi de facteur structurant, en positif comme en négatif, et le camp laïque et républicain historiquement s'est constitué face à cette influence. Mais on a eu récemment, là aussi, une vague d'émotions très importante au moment des dégradations de l'Arc de Triomphe. Et donc on voit que un certain nombre de bâtiments qui ne sont pas d'inspiration ou de filiation chrétienne ou catholique peuvent susciter aussi une très forte émotion.
Un bâtiment d'origine bonapartiste. Donc voilà, là, on pourrait encore discuter.
Voilà. Mais donc on voit.
C'est peut-être votre tropisme corse.
Voilà.
Alors, parce que vous avez écrit un livre, il faut que je le rappelle, sur la nouvelle question en Corse.
Donc on voit qu'il y a comme ça des vagues d'émotions tout à fait compréhensibles et légitimes qui peuvent se déclencher suite à des événements extrêmement marquants. Mais encore une fois, il faut essayer de prendre un peu de distance et de regarder les choses de manière clinique. Et je persiste à penser que voilà, que ces éléments-là sont encore présents, mais moins structurants et moins fédérateurs que par le passé.
Continuons à évoquer l'hypothèse d'une déchristianisation de la France. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas dire aussi que la France, comme d'autres pays, comme la modernité, est emplie d'idées chrétiennes devenues folles et que par conséquent, le christianisme n'est plus là dans les églises, c'est-à-dire certes, il y a moins d'assistance aux cérémonies religieuses, certes, il y a moins de vocations religieuses, mais enfin, la morale dominante, elle est plutôt d'inspiration chrétienne, Jérôme Fourquet.
Alors effectivement, il y a toute une série de valeurs qui ont passé cette frontière et qui se sont diffusées, qui se sont laïcisées dans notre corpus commun. Mais si on va un peu plus loin que le taux de personnes qui suivent la messe dominicale ou le nombre de baptisés, on pourrait prendre aussi le cas des petites filles qui ont été prénommées Marie, 20% des naissances féminines en 1900 contre à peine 0,5% aujourd'hui. Si on va un peu plus loin, on voit que tout un soubassement anthropologique et culturel aujourd'hui est en train d'être remis en cause et qui était hérité de la longue histoire et imprégné de cette conception judéo-chrétienne. Alors on peut prendre quelques exemples. Par exemple, la distinction qui n'aurait jamais été remise en cause il y a encore quelques années dans la hiérarchie des espèces entre l'homme et l'animal. Hein, tout ça, ça vient de l'histoire de longue durée. On a aujourd'hui la montée en puissance d'un courant vegan, des actions des antispécistes, un parti animaliste qui se
présente. On en parlera d'ailleurs demain, voilà. Après-demain, on recevra l'association L214.
Voilà, donc on voit cette montée en puissance de ce type de courant, par exemple, qui sont assez en rupture. Si on est sur l'actualité plus immédiate, le débat sur la PMA, procréation médicalement assistée, son élargissement aux couples de femmes, aux femmes célibataires, donc qui aboutirait à la naissance d'enfants qui n'auraient pas de père. Quand on pose la question de cette manière aux sondés, aujourd'hui on a une France qui est coupée en deux. 50% ils seraient favorables dans ces circonstances et 50% ils seraient opposés. Quand vous regardez les déclinaisons de ces résultats par génération, deux tiers des seniors, donc les plus de 65 ans, sont opposés, contre deux tiers des plus jeunes, les moins de 35 ans, qui seraient favorables à cette PMA, entre guillemets, sans père. Et là, on voit bien que c'est le rapport à la famille, la procréation, qui a été considérablement transformé. Et donc, nous sommes en train d'assister à un basculement qui n'a pas donné encore toute sa mesure, puisque cohabitent encore dans la société française des générations nombreuses issues du baby-boom, qui sont quelque part porteuses encore, plus ou moins leur corps défendant pour certains, d'une vision classique et traditionnelle, et puis des jeunes générations qui sont sur des références philosophiques et culturelles qui sont très différentes ou très éloignées de cette vieille matrice.
Jérôme Fourquet, je l'ai dit en introduction, votre étude, elle se sert de l'évolution des prénoms donnés aux enfants. Quels sont les différents enseignements? Comment cette étude des prénoms, elle vous permet finalement de conclure que la France est devenue un archipel avec différentes sociétés qui finalement se côtoient sans s'interpénétrer?
Alors c'est l'étude des prénoms, c'est un des outils qu'on a utilisé pour essayer d'établir ce diagnostic. Il y en a d'autres. En tant que salarié de l'IFOP, donc j'ai travaillé aussi sur les données d'enquête d'opinion, des études de géographie électorale également. Mais donc effectivement, l'analyse des prénoms est convoquée ou utilisée à différents moments de ce livre. Alors on s'appuie pour cela sur un fichier qui est mis à la disposition par l'INSEE sur son site, qui recense de manière totalement brute l'ensemble des naissances depuis 1900, département par département, sans aucun classement, mais donc vous avez une masse de données. C'est plus de 83 millions d'enfants qui sont nés, donc qui ont été prénommés, qui peuvent être analysés. Quand on regarde les choses sous différents angles, que constate-t-on? Tout d'abord, la montée en puissance d'un phénomène d'individualisation et la volonté de se distinguer. Historiquement, on donnait aux enfants le prénom du père ou du grand-père ou de la grand-mère ou de la mère pour l'inscrire dans une lignée. Tout cela aujourd'hui n'est plus du tout de mise. Et donc on avait parallèlement, depuis Napoléon, 1803, une loi qui précisait de manière très très stricte quels étaient les prénoms autorisés comme pouvant être reçus à l'état civil. Donc c'était ceux qui étaient en vigueur dans les calendriers existant. Cette loi a été abrogée en 1993 avec une liberté de choix quasi totale qui a été conférée aux parents. La résultante de tout cela, c'est que jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France, la société française, les familles françaises ont fonctionné avec un stock de 2000 prénoms qui étaient intangibles et immuables, qui donnaient une certaine homogénéité, une certaine cohérence culturelle. Ensuite, on est passé à 3000 prénoms dans les années 50-60, 3000 prénoms différents donnés chaque année. Et nous avons atteint le score de 13000 prénoms différents donnés ces dernières années, sachant que l'INSEE met de côté 50000 naissances dans une catégorie qu'il appelle les prénoms rares, c'est-à-dire des prénoms qui vont être donnés au mieux deux fois dans l'année en France. Donc là, on voit bien l'inventivité des parents pour trouver un prénom qui sera donné à personne d'autre. Donc on voit à l'aune de ce choix des prénoms la volonté de différenciation, et donc c'est un marqueur parmi d'autres de cette diffusion de l'individualisme. Autre élément, on en a parlé, la déchristianisation, avec le recul d'un prénom comme Marie, de manière très très spectaculaire, qui était très fortement donné encore au début du XXe siècle et qui ne l'est plus aujourd'hui. Et donc on pourrait multiplier les exemples avec le regain d'un certain nombre de prénoms régionaux en Bretagne et a fortiori en Corse. Et puis, autre élément, la montée en puissance des prénoms qu'on a qualifié d'arabo-musulmans, qui représentent aujourd'hui 18% des naissances de jeunes garçons sur les dernières années.
Et alors, c'est probablement la partie la plus polémique de votre livre, Jérôme Fourquet, et si je cite là aussi deux chiffres, vous dites que chaque diaspora a sa stratégie d'intégration. Alors pour les prénoms arabo-musulmans, ils sont donnés par 95% des personnes ayant un nom arabo-musulman, ce qui veut dire qu'il y a donc perpétuation de ce choix de prénoms, tandis que si l'on prend les Asiatiques nés en France, ils sont 75% à avoir un prénom français. Ça veut dire que si on s'en tient donc stricto sensu au constat, il y a déjà dans un cas un choix très largement majoritaire de prénoms français et dans l'autre cas de prénoms qui étaient déjà donnés ou qui sont donnés dans le monde arabo-musulman. Que peut-on en conclure, Jérôme Fourquet? Parce que finalement, une fois qu'on a ce constat, bon, ça c'est une chose, mais au-delà.
Alors, mais comme vous l'indiquiez, on a des choix collectifs, puisque c'est ce qui est fascinant dans l'analyse des prénoms, c'est que c'est des choix intimes et familiaux, mais que la loi des grands nombres montre qu'il y a quand même des tendances qui sont assez puissantes, alors soit régionalement, soit en fonction des origines d'un certain nombre de familles. Et ce que cela montre, eh bien, c'est qu'effectivement, alors que des immigrations comme l'immigration polonaise dans le bassin minier du Pas-de-Calais au lendemain de la Première Guerre, l'immigration portugaise ou plus récemment l'immigration asiatique, en tout cas celle des boat people dans la fin des années 70, rapidement ces familles font le choix pour leurs enfants de prénoms français ou à défaut européens. Et ce choix est beaucoup moins fait par les familles issues des immigrations, parce qu'il ne faut pas globaliser, qui viennent du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou de Turquie. Et donc ça montre eh bien la persistance d'une volonté de rattacher ses enfants, ce qui peut être compréhensible, à une origine familiale ou culturelle. Ces prénoms ne présagent en rien du degré d'intégration ou du degré de patriotisme même des personnes qui les portent ou qui les donnent, hein, puisqu'on rappellera que, par exemple, le policier qui est mort devant Charlie Hebdo s'appelait Ahmed Merabet, tout comme les trois premières victimes de Mohamed Merah de Toulouse, qui étaient des parachutistes français issus de l'immigration, qui portaient aussi ce type de prénom, comme leurs camarades, 10% des pertes françaises en Afghanistan, qui sont aussi des gens qui étaient issus de l'immigration. Ça dit simplement que dans une société qui s'archipélise, eh bien, nous avons un certain nombre de groupes qui affichent, par le choix des prénoms, un certain nombre d'attachements culturels historiques. Et ce qui est tout à fait spectaculaire et qui questionne, c'est le fait que ces familles expérimente pour autant assez fréquemment la discrimination vis-à-vis des prénoms qui sont donnés, qu'il s'agisse de la recherche d'un logement ou d'un job ou d'un emploi. Pas mal d'enquêtes de testing ont été faites et vous voyez que quand on porte un type de prénom qui rattache à cette ère culturelle, eh bien ça expose le porteur de ce prénom à davantage de discrimination. Et en dépit de cela, ce choix est quand même, au regard de nos chiffres, très fortement réitéré année après année.
On continue à évoquer l'archipélisation de la France. C'est en tout cas la manière dont vous avez décrit la situation de notre pays. Jérôme Fourquet, vous êtes politologue, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Et vous publiez donc l'archipel français. Et on va continuer cette visite dans une dizaine de minutes. Jérôme Fourquet, vous êtes politologue, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Et vous avez été lauréat du prix 2019 du livre politique pour un très bon livre, L'archipel français. Dans ce livre publié au Seuil, vous faites une peinture de notre société de plus en plus insulaire, avec de plus en plus de petites sociétés qui vivent aux côtés les unes des autres sans véritablement s'interpénétrer. Et vous utilisez pour cela les prénoms. Vous dites finalement que le stock traditionnel des prénoms français a été largement oublié, qu'aujourd'hui sont utilisés de plus en plus de prénoms pour des raisons qui sont de plus en plus idiosyncrasiques, avec malgré tout des permanences, et notamment la permanence des prénoms arabo-musulmans dans les familles d'origine immigrée. On va continuer à en parler. J'ai eu quelques remarques à faire, notamment après Notre-Dame, par rapport à cette situation d'archipel d'archipélisation de la France. Néanmoins, sur le plan politique, peut-être avez-vous raison, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, Jérôme Fourquet ?
Alors, c'est de mon point de vue, ce qui s'est passé en 2017, ce Big Bang politique, donc à la présidentielle puis aux législatives, et le phénomène de décomposition, recomposition qui manifestement n'est pas terminé puisque les grandes manœuvres continuent dans la perspective des élections européennes, eh bien l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que nous assistons de manière tardive à une mise en conformité de notre paysage électoral avec la réalité sociologique, économique, culturelle et démographique de notre pays. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant des décennies sur l'affrontement gauche-droite qui, en dernière instance, était structuré sur un affrontement entre le camp catholique et le camp républicain laïque. Hein, les racines de tout cela étaient là, avec une certaine homogénéité de ces deux blocs, même si ça n'a jamais été parfait, à aujourd'hui un paysage politique qui est beaucoup plus, pour le coup, archipélisé ou multipolaire. Quand on regarde les intentions de vote, donc on verra ce qu'il en sera dans un mois maintenant, mais pour les européennes, nous avons deux formations qui font la course en tête, La République En Marche et le Rassemblement National, mais qui font la course en tête avec des scores de 20 à 22%, ce qui fait que à eux deux, ces formations sont largement sous la barre des 50%, et derrière, une kyrielle d'autres formations politiques. Autre spécificité de la période actuelle, le fait que les grandes formations traditionnelles, LR, les Républicains aujourd'hui aux alentours de 13%, 13 ou 14%, après les 20% de François Fillon. Donc on voit que la droite a énormément perdu. Et puis pour ce qui est du Parti Socialiste, aujourd'hui il est aux alentours de 6% dans nos sondages. Donc on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, que 2017 n'était pas manifestement un accident, mais plus encore une fois une mise en conformité de la réalité électorale avec l'état du pays.
Alors, une France politique qui serait devenue un archipel, ça c'est votre thèse, Jérôme Fourquet. Pourquoi l'île formée par la gauche est-elle de plus en plus petite ? Parce que, et finalement, c'est ça qui semble étonnant dans ses intentions de vote. On a un PS assez bas, une France insoumise qui est entre 8 et 9%. Bref, pourquoi alors qu'il y a malgré tout la protestation des Gilets jaunes, protestation sur le pouvoir d'achat, pourquoi cette gauche représente-t-elle, si on additionne toutes les formations aujourd'hui, moins de 20% des intentions de vote?
Alors si, là, il y aura un débat si on rajoute Europe Écologie Les Verts dans ce périmètre-là, qui sont aux alentours de 9-10%.
On peut les ajouter. Dans voilà, ce cas-là, voilà, on obtiendrait 25%.
25-30, voilà. Donc effectivement, on a un étiage qui est bas pour la gauche. Eh bien, du fait que...
Qui est très bas même.
Mais du fait que une partie de ce qu'on appelait avant le centre-gauche s'est définitivement dissocié de cet univers-là et se retrouve aujourd'hui pour soutenir Emmanuel Macron. Alors bien évidemment, toute une partie de l'électorat de gauche, qu'on qualifiait d'hollandais, donc qui avait voté pour François Hollande en 2012 et qui a voté pour Emmanuel Macron, en est revenu parce que le projet qui est mené, la politique qui est suivie ne semble pas conforme à ce qui avait été annoncé pendant la campagne, mais ces pertes sont quand même relativement limitées et toute une partie, encore une fois, de l'ancien centre-gauche aujourd'hui, a fusionné avec les amis de Monsieur Juppé, les amis de Monsieur Bayrou dans un grand bloc central qu'on retrouve dans d'autres démocraties européennes.
Et mais donc, un peu central à droite.
Central à droite, mais une autre hypothèse qu'on peut défendre, c'est que la candidature d'Emmanuel Macron a permis le coming out libéral d'une partie de l'électorat de la gauche française qui se retrouve...
La sortie du placard, je traduis.
Où les masques tombent et que toute une partie d'électeurs qui historiquement votaient au PS, mais qui sur l'Europe, qui sur la nécessité de réformes libérales partageaient un agenda, par exemple avec quelqu'un comme Monsieur Bayrou ou Monsieur Juppé, eh bien aujourd'hui ont trouvé leur candidat. Quand vous regardez cette liste de La République En Marche qui a été très critiquée, pour moi, elle a une certaine cohérence. Elle rassemble des amis de Monsieur Cohn-Bendit à ceux de Monsieur Alain Juppé, en passant par les soutiens du MoDem. Et donc, on est bien sur ce vaste bloc pro-européen, libéral, social-libéral ou libéral-social, comme on le souhaite, et qui a une certaine cohérence idéologique. En son temps, donc c'est pas si lointain que cela, pendant la primaire de la droite, Alain Juppé avait dit « il faudra bien qu'un jour on finisse par couper les deux bouts de l'omelette pour rassembler ce vaste centre de l'omelette ». Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui tenait le couteau, et c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux, avec, encore une fois, l'émergence de cette force centrale, dans un univers qui est pour le reste archipélisé.
Mais alors, c'est ça justement qui est frappant, parce que jadis, les élections, notamment la présidentielle, elles se jouaient avec un candidat qui devait avoir plus de 50%, je crois, au second tour. Et aujourd'hui, on voit une myriade de candidats qui ont tous à peu près 20%. J'ai par exemple le sondage du jour, il est publié dans le Figaro. Et alors, on demande aux électeurs quelle est l'opinion qu'ils ont des différentes têtes de liste. Et à peu près tout le monde a 20%. Benoît Hamon a 27% de bonne opinion. C'est d'ailleurs lui qui en a le plus. Nathalie Loiseau, 25%. Jordan Bardella, 20%. Et ensuite, il y a une myriade de candidats qui ont tous 20%. Nicolas Dupont-Aignan, 20%. Raphaël Glucksmann, 19%. François-Xavier Bellamy, 17%. Et Manon Aubry qui ferme ce peloton-là avec 16%. Ça signifie finalement qu'il y a, en quelque sorte, une incapacité des partis politiques aujourd'hui à séduire plus d'un quart des électeurs.
Alors attention, en plus là vous êtes sur non pas un sondage d'intention de vote mais de popularité, donc ça permet de gonfler un certain nombre de périmètres.
Oui, parce qu'on obtient plus de 100%.
Voilà, et donc non, on a effectivement aujourd'hui les difficultés de ce qu'on appelle en sciences politiques procéder à des coalitions sociologiques ou des agrégations. Nous avons des partis qui parlent à des segments de la population. Alors ça a toujours été le cas, mais ces segments étaient beaucoup plus larges et il y avait un ciment unifiant qui permettait à différents segments, par exemple à gauche, les socialistes et les communistes, de se retrouver ensemble au moment d'échéances électorales importantes. Je reviens sur le cas d'Europe Écologie Les Verts. Alors peut-être que tout cela n'est que tactique et passager, mais je note par exemple que Yannick Jadot explique très clairement que son horizon n'est pas de rebâtir la gauche, hein, mais de défendre une ligne, un programme purement écologique. Et donc là, c'est une rupture majeur avec l'histoire de l'écologie politique en France, en tout cas l'histoire des Verts, hein, qui s'est toujours inscrit dans l'univers et le paysage des gauches. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, on voit que ces référentiels-là parlent beaucoup moins en français. Alors, c'est comme nos catholiques tout à l'heure, les électeurs de gauche et de droite n'ont pas disparu. Beaucoup de Français continuent de se reconnaître plutôt dans la gauche ou plutôt dans la droite, mais ils ne sont plus majoritaires. Nous avons d'autres clivages qui sont montés en puissance, liée notamment à la question de l'immigration, à la question de la construction européenne. Et on voit que, par exemple, sur cette question de la construction européenne, ce clivage qui était latent depuis au moins trois décennies, hein, les prémices de tout cela, c'est quand même la première secousse tectonique, c'est le référendum sur Maastricht en 92, où on voit que des gens de gauche et de droite peuvent voter oui, et des gens de gauche et de droite peuvent voter non, qu'il y a un nouveau clivage qui parcourt. On a retrouvé cela en 2005, au moment d'un autre référendum européen. Et donc, en 2017, eh bien, ces clivages ont été suffisamment puissants et les vieux partis politiques suffisamment affaiblis pour que tout ça s'effondre, avec un effondrement particulièrement spectaculaire du côté du Parti Socialiste, hein, qui termine à 6%. Et quand on regarde quand même ce qui se passe, parce qu'on dit, bon, des péripéties, la France en a connu, les deux finalistes de la primaire du Parti Socialiste, Benoît Hamon, vous citiez tout à l'heure, Emmanuel Valls, ont tous deux quitté ce parti. Hein, donc on voit bien l'ampleur et la profondeur des bouleversements auxquels on est en train d'assister.
Alors, des bouleversements, il y a donc un certain nombre de partis aujourd'hui qui ont perdu un grand nombre de leurs électeurs, d'autres qui se maintiennent, alors je l'ai dit, entre un cinquième et un quart des intentions de vote. Et puis, il y a une gronde, et une gronde qui ne faiblit pas. Alors, c'est d'ailleurs compliqué d'en préciser les contours, parce que dès qu'on le fait, eh bien, on sort du constat de fait pour être accusé d'avoir un biais. Et donc, je vais vous laisser la parole à ce sujet,
merci à vous,
Jérôme Fourquet, pour que vous nous disiez aujourd'hui dans quelle mesure ces gilets jaunes, qui continuent à manifester en France chaque semaine, représentent une partie des Français, une minorité, bref. Comment les qualifieriez-vous et qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui dès lors que ceux-ci, semble-t-il aujourd'hui en tout cas, semblent ne pas vouloir cesser leur gronde?
Alors cette gronde, elle vient de loin, elle est assez profonde et ce mouvement des Gilets jaunes a été révélateur de toute une série de fractures françaises. Quand on regarde, essayer de prendre un peu de recul, quand on regarde ce mouvement, on constate quoi ? On constate qu'il est les gens qui se reconnaissent ou qui se sont reconnus dans ce mouvement se recrutent d'abord dans les milieux populaires, ouvriers, employés, mais aussi chez les indépendants, alors plus artisans que commerçants. Et donc là déjà, on est sur quelque chose d'assez en rupture avec notre histoire sociale et politique, c'est-à-dire qu'on a rarement des ouvriers et des indépendants ou des artisans qui défilent ensemble. Autre caractéristique de ce mouvement, du public qui l'a soutenu, on a parlé, nous, de la France, de l'étalement urbain. C'était au départ, c'est quand même la grogne sur la hausse des prix des carburants. Donc c'est toute une partie de la France qui est dépendante des carburants. C'est également une France, qu'on regarde dans nos enquêtes, qui est plutôt moins diplômée que la moyenne, alors que les plus diplômés regardent avec une grande distance initiale, puis après condescendance, voire colère, ce mouvement-là. Je pense que ce mouvement dit beaucoup de choses des évolutions que la société française a connues. Si on fait un petit dégagement juste sur le symbole du gilet jaune, c'est un symbole intéressant, puisque le gilet jaune, dans la terminologie administrative et technique, c'est un vêtement de haute visibilité. Et bien, quelque part, ce sont tous les invisibles de la société française, soit ceux des périphéries, pour parler comme Christophe Guilluy, soit ceux du back-office, hein, pour parler comme Denis Maillard sur les soutiers de la croissance, hein, beaucoup de salariés des secteurs de la logistique, du transport, mais aussi de l'entretien, des femmes de ménage, du service à la personne, chez les femmes, beaucoup de femmes qui travaillent dans les EHPAD ou qui font des gardes malades, des choses de ce type, ou des caissières de supermarché. Donc cette France des invisibles qui s'est mise en mouvement et qui a décidé d'investir le cœur des grandes métropoles pour crier sa colère et aussi le fait qu'elle ne voulait pas être oubliée. Ça dit également, ce mouvement des gilets jaunes, si on reste encore une fois sur la symbolique du fameux gilet fluo, il a remplacé quelque part le bleu de travail. C'est-à-dire que dans l'espace de 3-4 décennies, on a une société française qui s'est très fortement désindustrialisée, qui s'est tertiarisée avec l'émergence de secteur moins productif, où il y a moins de gains de productivité, il y a moins de salaires, moins de perspectives de carrière. Il y a un encadrement syndical qui est très très faible aussi, et on l'a vu que ces gilets jaunes étaient très distants vis-à-vis des organisations syndicales. Et donc ce mouvement-là, il nous dit tout ça. Alors aujourd'hui, il y a plus grand monde objectivement à défiler. Hein, on peut se battre sur les chiffres, mais c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Donc sur une population de 65 millions d'habitants, c'est quand même assez peu. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, c'est quelques dizaines de milliers de personnes pour le 25e samedi de suite. Donc il y a quand même une capacité d'endurance qui est assez forte. Et puis quand on regarde, nous, nos chiffres à l'IFOP, là je ne parle pas des enquêtes qui mesurent le soutien éventuel ou la bienveillance à l'égard de mouvement, mais l'identification. Est-ce que vous vous sentez vous-même gilet jaune? On est encore sur 13 ou 15% de la population française qui se considère comme étant gilet jaune. Donc il s'est passé quelque chose et ce mouvement a parlé à toute une partie de la France. Maintenant, est-ce que nous sommes à la veille de l'émergence d'une nouvelle force politique? C'est pas évident, parce que quand on regarde ce que voteraient ces personnes qui se définissent elles-mêmes comme gilets jaunes, une majorité ne voterait pas pour la liste gilets jaunes. Donc ils s'éparpillent aussi, qui sur la France insoumise, qui sur les listes du Rassemblement national, qui beaucoup aussi sur l'abstention. Donc à un moment, on a pu penser que nous assistions aux prémices de la naissance d'un mouvement type 5 étoiles à la française, hein, conformément à ce qui s'est passé en Italie. Mais encore une fois, il faut être modeste et prudent. On verra ce qu'il en sera dans les urnes. Déjà, si cette mouvance arrive à mettre sur pied une liste et qu'elle répond à tous les critères légaux pour pouvoir se présenter, puis après, quel score elle fera. Mais ce n'est pas parce que ces gilets jaunes ne parviendraient pas à se présenter ou qu'ils l'obtiendraient s'ils se présentent uniquement un score modeste, qu'il faudrait passer par profits et pertes tout ce à quoi nous avons assisté depuis quelques mois, qui, encore une fois, est très profond de mon point de vue.
Mais alors, justement, si l'on prend ce 23e acte des Gilets jaunes, qui a rassemblé donc environ 30 000 personnes, selon la préfecture de police, et en tout cas, qui continue à mobiliser, qu'est-ce qui peut se passer ensuite, parce que pour la première fois, il y a une opposition à un gouvernement, alors une opposition qui est profondément hétéroclite, puisque en dehors de cette opposition, peut-être n'y a-t-il pas véritablement d'engagement partisan commun parmi tous ces gens qui défilent. Mais enfin, c'est une opposition forte, parfois même violente, au gouvernement. Comment les choses peuvent-elles évoluer et est-ce qu'on a des exemples de gouvernements qui ont eu à affronter cette opposition-là Qu'est-ce qui pourrait faire que cette opposition ne défile plus ou alors se range aux arguments d'un autre parti? Bref, quels sont les scénarios, Jérôme Fourquet?
Alors c'est difficile à dire. Néanmoins, ce qu'on peut avancer comme hypothèse, c'est que c'est pas ce que le président de la République va annoncer dans les prochains jours qui, de mon point de vue, est de nature à faire rentrer ces gens à la maison. Ces gens ont décidé de descendre de manière réitérée, parfois violente, pas toujours, mais parfois violente, et ils expriment pour la première fois, de mon point de vue, un mécontentement dans la rue de manière constante, hein, puisque Emmanuel Macron n'est pas le premier président à connaître une cote de popularité largement déficitaire, mais jusqu'à présent, ça ne se mesurait que soit dans les urnes, soit dans les échantillons des instituts de sondage.
Là, l'inédit, c'est une opposition dans la rue.
Physique, dans la rue. Et qui est déterminée, donc du coup, qui demande au bout du bout la démission d'Emmanuel Macron, et donc c'est pas la réindexation des petites pensions de retraite sur l'inflation, l'engagement de la non-fermeture de crèches, écoles ou hôpitaux en province, ou même le sacrifice rituel et symbolique de l'ENA sur l'autel de la grogne sociale qui va faire rentrer ces gens chez eux.
Bon, on peut imaginer qu'il ne démissionnera pas.
Voilà, et donc on peut donc imaginer qu'on aura encore, pendant des semaines, les samedis, des gilets jaunes qui vont se mobiliser. Est-ce que c'est quelque chose de totalement inédit en France? Oui. À l'étranger, non. Nous avons eu, par exemple, le mouvement des indignés, hein, qui, en Espagne, sur fond de crise économique et sociale, ont occupé les principales places du pays pendant des mois et des mois. Ce que ça traduit également, là aussi, on revient à l'archipélisation, c'est que, eh bien, on est face à l'émergence, peut-être, et sans doute, de nouvelles formes de mobilisation ou d'intervention politique et citoyenne, d'un côté des pétitions, hein, qui, via les réseaux sociaux, prennent une ampleur et une force inégalée, plusieurs centaines de milliers de personnes, voire 2 millions de personnes, sur la pétition sur le climat, en un laps de temps très très court. Et puis, une autre forme d'expression politique, eh bien, c'est ces défilés de manière totalement inorganisée. Et pourquoi on rattache ça à l'archipélisation? Eh bien, parce qu'on voit que les forces politiques et syndicales traditionnelles peinent de plus en plus à canaliser tout cela, et que tant les pétitions que ces manifestations des Gilets jaunes échappent totalement à leur contrôle. Et donc c'est peut-être, sans doute, le symptôme aussi du passage à une nouvelle ère politique et démocratique.
Mais alors en Espagne, si vous faites le parallèle, comment cela s'est-il traduit dans les urnes, Jérôme Fourquet?
Alors on a eu effectivement en Espagne la structuration, après, sur le long terme, de ce courant des indignés dans une formation politique qui s'appelait Podemos, qui a obtenu des scores importants et qui s'est quelque part institutionnalisé.
Donc ça a été une traduction à gauche en Espagne. En France, alors il est aujourd'hui beaucoup trop tôt pour voir comment les gilets jaunes pourraient se traduire politiquement. Ce que l'on peut mesurer en revanche, c'est la situation politique au moment où ces gens sont dans la rue. Et ce que l'on voit, c'est la naissance, ou plutôt la prédominance d'un bloc. Alors c'est très hétérogène aussi, mais on a, semble-t-il, une montée en puissance des partis qui sont des partis plutôt classé à droite, et je pense donc évidemment aux Républicains qui ont un score peut-être supérieur à ce qui était prévu. Il y a évidemment le Rassemblement National et puis la République En Marche qui est de plus en plus considérée comme étant finalement de moins en moins un parti pratiquant le et en même temps, et de plus en plus à droite, ce qui voudrait dire qu'on serait sur environ 60% des Français qui voteraient pour un parti dit conservateur ou un parti à droite. Est-ce que ça n'est pas paradoxal, Jérôme Fourquet?
Alors, je vous laisse la responsabilité d'amalgamer dans un grand bloc.
Ça n'était pas un amalgame, je disais juste...
Non, mais d'associer ou d'additionner arithmétiquement...
Des partis, alors disons, non à gauche. Là, vous allez être d'accord avec ça.
On est d'accord, on est d'accord. Moi, j'y vois plutôt, encore une fois, le symptôme d'une recomposition et d'une archipélisation avec un tassement ou un affaiblissement des vieux partis traditionnels. Parce que, effectivement, certains sondages de fin d'année dernière avaient placé la liste des Républicains à 10 ou 11%. Donc là, le 13 ou le 14% dont est créditée la liste emmenée par François-Xavier Bellamy apparaît comme en progression,
tout à fait. Avec une tête de liste qui se définit elle-même comme conservatrice.
Tout à fait. Mais ces 13 ou 14%, on rappelle, encore une fois, le score de François Fillon à la présidentielle, 20% au premier tour et le score de Nicolas Sarkozy au premier tour de 2012, c'était 27%. Donc à 13%, la droite aujourd'hui ne serait qu'à la moitié de son étiage moyen. Donc je ne vois pas forcément de signe d'une droitisation du pays dans nos chiffres. Ce qui se passe, c'est que nous avons notamment 20% des électeurs qui avaient voté pour François Fillon à l'époque, donc qui étaient sur un discours de droite effectivement libéral et conservateur, qui aujourd'hui, dans le sillage des ralliements de messieurs Raffarin et Juppé notamment, voteraient pour la liste de la République en marche. Donc on voit bien que, encore une fois, le clivage gauche-droite n'est pas mort, des Français continuent de s'y référer, des partis l'incarnent, mais ce n'est plus le clivage ou la boussole dominante pour comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays.
Et donc les différents scénarios, puisque vous récusez le fait, non pas d'amalgamer, puisque ouais. je ne l'avais pas
non,
amalgamé,
non, mais d'additionner.
Ce qui est symptomatique, c'est l'affaiblissement des partis de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en Espagne, cet affaiblissement, puisque Podemos a connu également des vicissitudes, est-ce que du coup, on peut voir comment le mouvement des indignés se traduit? Si je vous pose la question, c'est parce que je songe à un autre pays qui est Israël. En 2011, il y a un mouvement. Ce mouvement est le mouvement, alors non pas des indignés, parce que en Israël, il se définit autrement, mais finalement, il naît de la même chose, c'est-à-dire une révolte face à la cherté des loyers, et puis marginalement aussi, la cherté d'un certain nombre de denrées alimentaires. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que ce mouvement, il est aussi contemporain d'une permanence au pouvoir de Benjamin Netanyahou, qui, outre sa politique sur le plan international, mène une politique économique ultra-libérale. Donc c'est cela, en fait, a été le cas en Israël.
Alors, si on veut faire des comparaisons avec ce qui se passe un peu à l'étranger, il y a effectivement un trait commun, sans doute, c'est l'affaiblissement historique de la social-démocratie partout. Alors en Grèce, le PASOK a disparu quasiment. On voit bien les difficultés en Italie, on en a parlé tout à l'heure avec 5 étoiles et l'alliance électorale, enfin gouvernementale plus exactement qu'électorale, avec la Ligue, mais le Parti démocrate est quand même très très affaibli. On voit bien également ce qui se passe en Allemagne, en Grande-Bretagne avec le Parti travailliste qui est aussi lui en grande difficulté dans le contexte du post-Brexit. Et donc on voit bien que ce bloc-là qui a structuré historiquement la vie politique dans les démocraties occidentales, eh bien aujourd'hui est en train de se déliter. Donc on a la persistance d'un courant que historiquement on avait appelé ça la SFIO maintenue, donc on aurait un PS maintenu, on a une branche écolo qui s'est dégagée, une branche plus à gauche, alors ça peut être les indignés en Italie, c'est Die Linke en Allemagne, c'est les insoumis chez nous, et puis également tout un courant qui s'est rallié à ce bloc central d'obédience libérale qui met en place une politique de réforme et d'intégration européenne pour les pays qui sont dans le continent européen.
Jérôme Fourquet, revenons à l'archipel français et cette fois-ci à votre étude des prénoms. Je l'ai dit, il y a selon vous des enseignements à tirer dans les choix des patronymes donnés par les parents à leurs enfants et il y a selon vous une singularité dans les familles d'origine arabo-musulmane lorsque donc on a des familles qui sont originaires par exemple d'Afrique du Nord. Et alors ces conclusions, elles tranchent avec une étude qui a notamment été menée par Patrick Simon de l'INED. Et je vais vous citer l'une des conclusions de cette étude. Il estime que 95% des grands-parents nés en Afrique du Nord s'appellent Mohamed ou Fatia. En revanche, leurs petits-enfants ne sont que 17% à porter des prénoms marquant l'appartenance à une communauté ou à une religion. Autrement dit, ce que l'on pourrait imaginer, puisque je ne conteste pas les statistiques que vous avez utilisées. En revanche, ce que l'on pourrait imaginer, c'est qu'en fait, il faille regarder une génération après et que l'étape où il y aurait finalement une stratégie de nomination qui soit la même que celle de tous les autres Français, eh bien, elle se passe à la génération d'après.
Alors, c'est le constat effectivement de leur étude en disant que sur les vagues d'immigration plus anciennes, il a fallu une génération pour adopter des prénoms français ou européens et que nous serions sur une échelle de temps de deux générations pour l'immigration qui vient du sud de la Méditerranée. J'ai un peu de mal, au regard de nos chiffres, à partager ce diagnostic et ce constat, dans la mesure où, encore une fois, le pourcentage d'enfants naissant avec des prénoms arabo-musulmans, alors après on peut discuter de quel prénom on met dedans, mais notre corpus de prénoms, nous l'avons défini sur l'ensemble de la période, et nous avons une courbe ascendante. Or, si on suit le raisonnement de Patrick Simon et de M. Coulmont, le temps passant, on devrait avoir un poids de cette troisième, voire de cette quatrième génération qui est de plus en plus important, et donc du coup avoir mécaniquement une proportion de ce type de prénom qui serait très fortement déclinant. Ce n'est pas ce que nous constatons. Alors, on est d'accord avec un certain nombre de constats qu'il pointe, le fait que le choix des prénoms est déterminé aussi par la nature des couples, ou des unions qui sont formées, dans des couples mixtes, on abandonnera plus facilement ces prénoms. Et encore, faudrait-il revenir sur est-ce que c'est l'homme ou la femme qui se rattache ou pas à l'immigration. Il pointe aussi du doigt un autre phénomène que nous avons vu, mais qui est assez compréhensible, c'est le fait que le degré de religiosité est corrélé aussi au choix des prénoms. Plus vous êtes dans une famille religieuse, plus on va avoir tendance à donner des prénoms musulmans. Il pointe également, ça aussi je pense c'est une différence majeure avec les immigrations précédentes, le rôle de la persistance des flux migratoires. C'est-à-dire que dans une immigration qui, je prends le cas des Polonais, a duré une quinzaine d'années, assez rapidement, les enfants de cette immigration sont amenés à aller chercher des conjoints dans ce que les démographes appellent le groupe majoritaire, puisque les sources d'arrivée sont taries. Ce qui n'est pas le cas de l'immigration qui vient du sud de la Méditerranée, où les flux varient, mais sont persistants. Dernier point, et là aussi nous sommes en accord avec eux, ces prénoms peuvent évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on a moins de Karim, par exemple, qui étaient des prénoms assez fortement donnés par les premières vagues, avec des prénoms se rattachant aussi à cette ère culturelle, mais qui sont plus modernes ou qui sont différents. Donc il y a un phénomène de différenciation. Alors on a des Ryan par exemple hein, qui sont plus donnés. Donc là-dessus nous sommes d'accord. Reste que par exemple la proportion de jeunes garçons s'appelant Mohamed reste constante hein, alors que c'est un prénom traditionnel et qui est très très connoté. Et puis l'étude de Patrick Simon indique aussi que sur la troisième génération, le deuxième prénom masculin le plus donné serait Nicolas. Ce qui nous a semblé assez curieux, donc on est allé regarder et on a en moyenne registré par l'INSEE 20 à 30 Nicolas qui naissent tous les ans en Seine-Saint-Denis, un département qui compte une très forte population issue de l'immigration. Et donc on a un peu de mal au regard de ces chiffres à valider ce scénario.
Bon, il vous faudra faire un grain à Hamoud, peut-être qu'Hervé Gardette se saisira de cette question des prénoms. Merci en tout cas de nous avoir exposé votre point de vue sur l'archipel français. C'est le titre de votre ouvrage publié aux éditions du Seuil, Jérôme Fourquet.